au Japon, en fait, elle tire les conséquences d'une décision qui a été prise en juillet dernier, qui vise à permettre au Japon de faire application, en fait, de ce qu'on appelle la légitime défense collective. La légitime défense collective, c'est un dispositif par lequel un État qui n'est pas attaqué peut défendre son allié qui est attaqué. Donc un État peut réagir comme s'il était attaqué à une attaque qui ne concerne que son allié. C'est quelque chose en fait que le Japon s'interdisait de faire jusqu'à présent et que donc il peut maintenant faire. Ensuite, dans des situations qui auront des conséquences importantes pour la sécurité du Japon, pour la survie des Japonais, pour leurs droits et libertés, eh bien le Japon estime qu'il peut désormais apporter un soutien logistique non seulement aux États-Unis, mais à d'autres États dont il serait proche. Autrement dit, par le dispositif actuel, en fait, il peut se trouver à utiliser la légitime défense, donc à réagir par la force à une attaque qui ne le vise pas directement. C'est la raison pour laquelle, en fait, ces lois ont été contestées.
Alors justement, pourquoi sont-elles très contestées et comment ça se fait que le Parlement ait approuvé cette loi, ces lois, en dépit de la forte opposition de la rue des Japonais ?
Parce que ces lois, en fait, elles ont beaucoup de vertus. La première d'entre elles, c'est qu'on crée un cadre juridique pérenne pour le déploiement des forces d'autodéfense. Jusqu'à présent, en fait, ce qui se passait, c'est que quand il y avait une situation de crise, eh bien, il fallait adopter un système, un nouveau dispositif, une loi ad hoc, qui visait à satisfaire les besoins de la cause et qui donc était adopté pour 2 ans dans un contexte politique qui était souvent troublé. Et puis 2 ans après, il fallait obtenir le renouvellement de la loi auprès de la Diet, par la Diet. C'était problématique politiquement. Et donc, vis-à-vis de la population, c'était pas très satisfaisant non plus, parce que dans une crise internationale donnée, les Japonais pouvaient partir du principe que leur gouvernement n'allait pas envoyer les forces d'autodéfense. Et puis en définitive, le gouvernement trouvait un moyen de les y envoyer. Parce qu'ils voulaient faire la même chose, en fait, que le Royaume-Uni, que la France, ou voilà, et passer pour un allié, en fait, fiable des États-Unis ou pour un pilier de la communauté internationale. Donc là, en fait, ils ont adopté un cadre juridique pérenne qui permet de savoir dans quelles circonstances, plus ou moins, le gouvernement, en tout cas, de quels moyens le gouvernement dispose. Ce que le gouvernement s'autorise à faire, c'est une avancée malgré tout sur le plan de la démocratie, si vous voulez. Alors après, la population a quand même manifesté parce qu'il y a une crainte qui est que le Japon se trouve pris dans un conflit et que les Japonais, de manière générale, ne souhaitent pas être mêlés à des conflits internationaux.
Malgré le fait d'avoir dû toucher à la Constitution et à ce fameux article 9.
Ça, c'est une erreur qui est fréquemment commise. En fait, la Constitution, elle n'a pas été changée. Pour changer la Constitution, il faut en fait réunir une majorité des 2/3 des 2 chambres. Et en plus, il faut un vote à la majorité absolue, un référendum, en fait. Et donc ça n'a pas été fait. Ce sont des conditions qui sont difficiles à réunir. Et donc le PLD, le Parti libéral-démocrate qui est au pouvoir, il a renoncé à le faire pendant 50 ans. Et donc il reste toujours sur la même posture. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas changé la Constitution. On a adopté des nouvelles lois dont on dit qu'elles sont constitutionnelles. Et alors, pour faire en sorte qu'elles soient constitutionnelles, eh bien, on dit, en fait, tout ce qu'on change, c'est l'interprétation constitutionnelle qui prévalait jusqu'à présent, qui rejetait la légitime défense collective, et maintenant, on autorise la légitime défense collective, et par ailleurs, le soutien logistique, eh bien, il peut être donné dans une situation qui met en péril, qui a un impact important pour la paix et la sécurité du Japon.
En quoi est-ce que ces nouvelles lois sécuritaires marque un tournant dans la politique du Japon? Est-ce qu'on peut dire que le Japon entre en guerre quelque part?
Pas vraiment, si vous voulez. Jusqu'à présent, ce qui pouvait se passer, c'est que si le Japon était attaqué, il pouvait répliquer. C'était ce qu'on appelait la légitime défense individuelle. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que si jamais son allié est attaqué, il peut répliquer. Mais en pratique, il faut quand même que les États-Unis soient attaqués. Et donc, le but, la logique, en tout cas, du dispositif actuel, n'est pas de permettre au Japon, par exemple, d'intervenir dans un scénario qui serait un scénario type Vietnam ou Irak en soi. Mais c'est que dans une situation donnée où le déploiement a été jugé légal par la Diète, donc où les forces d'autodéfense se trouveraient, par exemple, dans une opération de maintien de la paix en Irak, que ce qu'elles puissent faire dans ce contexte soit prévisible. Donc, ce n'est pas une participation accomplie, c'est toujours un soutien logistique seulement. Ce n'est pas un contexte où on prévoit que le Japon va entrer en guerre et qui va être mêlé à une guerre aux côtés des alliés, etc. Il y a d'autres principes qui subsistent. L'interdiction, par exemple, que le Japon soit associé à la force, qu'il soit sous commandement, que les forces d'autodéfense soient sous commandement international, parce que précisément ça constituerait une association avec la force et que ça, ce serait contraire à l'article 9. Donc, vous voyez, les contraintes subsistent. Dans ces contraintes, les forces d'autodéfense ont le droit de faire, a été changé.
Et pourtant, le Japon a une politique pacifiste depuis 70 ans. Pourquoi ce changement ?
Le Japon a une politique pacifiste et il continue à avoir une politique pacifiste, en fait. C'est-à-dire le principe qui est que le Japon ne veut pas faire usage de la guerre dans un contexte international subsiste. Le problème avec l'article 9, c'est-à-dire cette armée japonaise, elle a une existence constitutionnelle qui est un peu douteuse parce que les forces d'autodéfense, elles sont là pour assurer la légitime défense. Et ça, c'est un type de conflit qui, c'est-à-dire une attaque du Japon, ça n'a pas été écarté par l'article 9. Ça fait partie des choses. L'article 9 a autorisé le Japon, s'il était attaqué, à se défendre, d'où l'existence des forces d'autodéfense. Ça, c'est la doctrine pacifiste. Jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'était la légitime défense individuelle est la seule qui soit permise. On n'autorise pas la légitime défense collective. Là, ce qui a changé, c'est qu'on dit, bon, pour défendre le Japon, il y a des alliés qui jouent un rôle important, il y a un contexte international qui peut être préjudiciable au Japon. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, ça fait partie des capacités que le Japon a pour assurer sa défense, de défendre également son allié s'il est attaqué. C'est juste une extension, finalement. Donc, pour les Japonais, pour le gouvernement japonais, ça ne remet pas en cause le pacifisme.
Quel message, à travers cette nouvelle politique sécuritaire, quel message veut envoyer le Japon à ses voisins? Je pense notamment à la Chine et à la Corée du Nord.
Le message, en fait, vis-à-vis de la Chine, la Corée du Nord, à dire vrai, jusqu'à présent, le Japon, il avait déjà le droit de procurer du soutien logistique, mais aux États-Unis. Donc l'aspect soutien logistique, ça joue plutôt pour des situations de crise, type piraterie, où il y a un déploiement international, et où le Japon, où il y a une crise internationale, mais plutôt ailleurs, à dire vrai, parce que pour les crises régionales, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient possibles. Mais effectivement, le message, là où il y a un changement, c'est effectivement pour la défense, la légitime défense collective, parce que les débats, effectivement, c'était par exemple, est-ce que si un missile est tiré de Corée du Nord, le Japon peut ou non l'abattre? Bon, maintenant, la réponse est clairement oui, la question se pose plus. Légitime défense collective, de toute façon, l'envoi d'un missile vers un allié, ça pose un problème pour la sécurité du Japon également. De toute façon, la destination finale d'un missile, on ne peut pas en être toujours sûr. Donc, un missile arrive, le Japon l'abat. Pour la Chine, par exemple, bien c'est montré que le Japon est désormais plus inséré dans les dispositifs de la communauté internationale, qu'il est plus disposé à coopérer avec elle, qu'il donne les moyens d'agir davantage avec elle, mais ça reste encore limité. Vous voyez, c'est vraiment encore, il ne s'agit pas du tout d'aller faire n'importe quelle guerre, n'importe où, non, pas du tout.
On parle de protection des Japonais, mais est-ce que ça veut dire que le Japon est en danger ?
Le Japon, il s'estime en danger, si vous voulez, parce qu'effectivement, il a donc des missiles. La Corée du Nord a donc un programme missile et balistique important. Et puis que la Chine, effectivement, une puissance qui pose beaucoup de problèmes en mer de Chine orientale, où il y a des incursions donc, dans le territoire maritime et aérien japonais qui sont très régulières. En mer de Chine méridionale. En fait, la Chine, en verrouillant la mer de Chine méridionale, elle bloque les voies de circulation qui approvisionnent le Japon et l'Asie du Sud-Est en pétrole, etc. Donc, ce sont des voies de circulation très importantes. Donc, le Japon, oui, s'estime menacé. Alors, il n'y a pas seulement ces menaces régionales. C'est vrai qu'on est dans un contexte international où, qui est plus incertain que par le passé, où il y a des défis qui sont peu prévisibles. Et il s'agissait de donner un cadre pérenne à l'action internationale du Japon.
Il y a encore aujourd'hui des manifestations ?
Il y a encore des manifestations, oui, bien sûr, parce que il y a plusieurs raisons, en fait. Il y a des manifestations parce que la population veut montrer son attachement à l'article 9. Et donc ça, c'est très important. Je veux dire, c'est très bien que le gouvernement comprenne qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a voté un projet de loi, mais il est sous surveillance. C'est-à-dire que la population tient énormément à l'article 9. Et c'est une manière de dire, en fait, au gouvernement que ces nouvelles lois ne doivent pas être considérées comme un préalable à une révision constitutionnelle. Ça, la population majoritairement n'en veut toujours pas.